magazine des Nations Unies.
Merci à vous d'avoir choisi d'être au parfum de l'action des agences des Nations Unies RDC, dont voici les grandes articulations. La MONUSCO décrète la fin de toute cohabitation de ses bases avec les groupes armés. Décision du représentant spécial de cette mission, Martin Kobler, au lendemain de la victoire des FARDC sur le M23. Les précisions dans un instant. 31 octobre 2013, cela fait exactement 13 ans depuis que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1325. En quoi consiste cette résolution et qu'en a tiré la RDC? Réponse avec un responsable du bureau gender de la MONUSCO dans le décryptage de la semaine.
Je suis entré à la MONUSCO en février 2000. Je suis entré ici, je suis le premier chargé de l'information publique. J'ai travaillé comme chef du bureau de l'information à Bounia et j'achève aujourd'hui ma fonction en tant que porte-parole de la mission et directeur adjoint de la division de l'information publique.
Cette voix, c'est celle du désormais ex-porte-parole de la MONUSCO, Madnodj Mounoubaï, qui est arrivé fin mandat au sein de la mission de la paix en RDC. Le magazine des Nations Unies vous propose ce dimanche 3 novembre son portrait. Voilà pour le sommaire, pour vous servir. Béry Franklin Louchaka devant ce micro, merci de nous faire confiance.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Je vous l'ai dit dans les titres, la MONUSCO décrète la fin de toute cohabitation sur ses bases avec les groupes armés. C'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC qui l'a annoncé cette semaine au regard de la victoire militaire des FARDC sur les M23. Martin Kobler a invité les groupes armés à déposer leurs armes car la MONUSCO est décidée à ne plus avoir pour voisins des éléments des groupes armés. Les propos de Martin Kobler ici sont recueillis par Rosalie Zawadi.
C'est naturellement très bien de voir des yeux heureux de la population et de vraiment sentir qu'ils sentent bien que le M23 est parti. La paix est fragile, mais c'est pourquoi c'est très important de rester ici maintenant avec la brigade d'intervention. Jusqu'à maintenant, on avait ici des casques bleus, puis on a eu une certaine cohabitation avec le M23. Je suis arrivé ici il y a 2 mois et demi et le M23 était là. Dans ce bâtiment. Et c'est la cohabitation. Hein? C'est fini. C'est la fin de la cohabitation maintenant avec les groupes rebelles. Pendant les crises, j'ai 5-6 fois contact avec l'envoyé spécial du secrétaire général, avec le quartier général. Je crois qu'on a maintenant des conditions qui sont bien pour avoir les assurances pour l'irréversibilité. Je comprends très bien que les gens pensent que l'histoire ne doit se répéter.
Au-delà de ce succès militaire sur le M23, Martin Kobler pense qu'il faut une solution politique. Allusion faite au pourparlers de Kampala engagé entre le gouvernement congolais et ce mouvement rebelle. Le chef de la MONUSCO s'exprimait mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa et ses propos sont recueillis cette fois-ci par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Je crois qu'on n'a pas une solution militaire seulement. On doit avoir une action politique complémentaire. Le processus militaire doit être accompagné par une voie politique ici. Et ça, à Kampala, je ne peux pas vous dire exactement où on est, mais je peux vous dire une chose. Les équipes de négociation sont à Kampala. On a peut-être 2-3 problèmes qui sont pas résolus jusqu'à l'instant. Après la dernière ronde des négociations à Kampala, on a le facilitateur a paraffé 8 paragraphes sur 11. Alors on a 3 qui restent et les équipes n'ont jamais quitté Kampala. Les équipes sont là, nous avons même pour discuter les questions de sécurité un de nos officiers qui est aussi à Kampala en permanence, il n'a jamais quitté et moi-même j'ai vu une part de la délégation du M23 le dimanche à Kampala. Alors tout le monde est là et il faut maintenant essayer rapidement de résoudre les autres problèmes parce que c'est bien pour la paix. Je ne vois pas une autre solution parce que le succès militaire doit être accompagné maintenant par un succès politique.
Magazine des Nations Unies, Décryptage.
La femme doit être impliquée dans tous les processus de décision. C'est l'essentiel de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 31 octobre 2000. Alors, du 30 au 31 octobre dernier, le gouvernement congolais et la MONUSCO, à travers sa section gender, ont organisé à Kinshasa des journées portes ouvertes sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité. C'est justement la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui fait l'objet du décryptage de ce jour. Dominique Basinga, René, du bureau gender de la MONUSCO nous explique justement en quoi consiste cette résolution. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Dominique Basinga, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement congolais et la MONUSCO, à travers sa section gender, ont célébré le 13e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. En quoi consiste exactement, Dominique, cette résolution? Quelles sont ses grandes lignes?
Le Conseil de sécurité a effectivement adopté à l'unanimité des membres présents et votants la résolution 1325 du Conseil de sécurité le 31 octobre 2000. Ce qui nous fait qu'on est aujourd'hui au 13e anniversaire de la dite résolution. En quoi consiste exactement cette résolution? Cette résolution, on la résume souvent avec les 4 P. Ça veut dire participation, prévention, protection et poursuite judiciaire pour tous les crimes de violence sexuelle, violence et violence sexiste. Mais pour être beaucoup plus précis, la résolution effectivement demande que les femmes puissent être représentées dans toutes les initiatives visant à ramener la paix ou à la consolider. Et par extension, on a utilisé cette résolution 1325 au-delà de la sphère déterminée pour l'appliquer même dans la sphère politique et dans tout ce qui concerne la prise de décision. La résolution 1325, pour ce qui concerne la mission, les missions de maintien de la paix, demande qu'on puisse prendre en compte le genre dans toutes les politiques et les programmes de la mission. C'est en commençant par le DDRRRR, les 3 R, les élections, la constitution, la police, la composante militaire, et cette résolution a tellement donné et produit des effets qu'aujourd'hui on a adopté à sa suite la résolution 1820 qui reconnaît pour la première fois les violences sexuelles comme pouvant être des crimes internationaux et passibles de poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale. Il y a la résolution 1888, la résolution 1889 qui demande que des Women Protection Advisors, des conseillers en matière de protection des femmes puissent être déployés dans les missions, et enfin la 1960 et aujourd'hui l'accord cadre et la résolution 2098. Voilà un peu la résolution 1325, ce qu'elle a produit.
Oui, ça fait 13 ans que la 1325 a été adoptée par le Conseil de sécurité. Et quelle a été en fait la particularité de cet anniversaire pour la République démocratique du Congo?
La particularité, je dirais à mon avis, c'est une étape de maturité. C'est une étape où la RDC, les institutions nationales, la société civile, les ONG féminines, comme je vous l'ai dit, de maturité. Nous avons, avec le gouvernement, le ministère du Genre, accompagné un processus d'élaboration du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC qui a commencé depuis 2007 et qui a finalement abouti en 2013 avec la signature par Madame la ministre du Genre le 5 juin 2013 de 2 arrêtés ministériels qui créent les structures de gestion du plan d'action national.
Comment la femme congolaise peut-elle prétendre jouir de la résolution 1325 concrètement?
La résolution 1325 reconnaît des droits aux femmes de tous les pays et spécifiquement aux femmes congolaises. Il faut que les femmes s'approprient cet outil et ces différents instruments d'application que sont le plan d'action national. En maîtrisant cet outil, ça leur servira de base dans les plaidoyers visant à leur promotion dans le domaine politique, dans le domaine militaire. Vous n'êtes pas sans savoir que cet outil a permis dans les plaidoyers en RDC d'obtenir cette année 2013, qui semble être très bénéfique pour les femmes congolaises, la nomination de 3 femmes générales au sein des FARDC et d'une femme générale au sein de la PNC, ce qui est une grande première pour les États des pays des Grands Lacs. C'est des progrès significatifs au plan psychologique, même ça va booster la mobilisation et la participation des femmes.
D'une manière générale, puisque vous avez parlé de la région des Grands Lacs, comparativement à d'autres pays de cette région, à quel niveau situe la RDC par rapport à l'application de la 1325?
Je dirais que la RDC se situe parmi les 20 États au plan mondial, pas seulement régional, au plan mondial, qui se sont dotés d'un plan d'action national. Il faut le reconnaître, il faut tirer son chapeau aux institutions nationales. C'est un acquis. C'est indéniablement un acquis et cet outil, le plan d'action national, est très positivement apprécié des bailleurs de fonds. Il est bien élaboré, il est budgétisé, il est chiffré dans toutes ses 10 thématiques. Et ça, c'est un acquis indéniable. Alors la RDC est bien positionnée pour évoluer sur le niveau régional, puisque doté déjà d'un plan d'action national, et ce plan a aussi influencé l'élaboration du plan d'action régional adopté à Bujumbura il y a quelques mois, en juillet, je crois.
Alors, M. Dominique, quel rôle joue par rapport à l'application de la 1325 les comités de pilotage?
Le comité de pilotage est l'instance d'impulsion de la mise en œuvre du plan d'action national 1325, l'organe d'impulsion politique et d'orientation stratégique. Le comité est présidé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, et la première vice-présidence est attribuée aux bailleurs de fonds, la deuxième vice-présidence à la société civile. Vous pouvez comprendre là quel rôle peut jouer la société civile. C'est elle qui est en interaction avec les populations au quotidien. Alors, on lui a accordé la place qu'elle mérite au sein du comité pour donner son avis technique sur tous les projets, sur toutes les orientations et faciliter, en tout cas éclairer les choix qui vont être faits par ce comité national.
Donc, c'est ça le rôle que doit jouer la société civile dans l'application de la 1325?
Il n'y a pas que le rôle d'orientation. La société civile est la colonne vertébrale de tout le processus. C'est encore ces ONG féminines qui vont porter les objectifs du plan d'action national, qui vont être traduits en actions concrètes, en projets concrets sur le terrain. Et ça partira du niveau national jusqu'au niveau local. Dans les districts, dans les hameaux les plus reculés, la 1325 doit parvenir dans les foyers. Et ça, c'est les ONG féminines qui pourront le faire sur le terrain.
Dominique Bassinga, merci de votre disponibilité pour le magazine Nations Unies.
Merci beaucoup à vous pour tout l'écho que vous réservez à nos activités. Merci au nom de la conseillère principale en Jean.
Merci, messieurs. Et les nouvelles sont plus brefs. D'abord à Goma, au Nord Kivu, pour vous parler de cette exposition d'une soixantaine de photographies présentant les interventions du PNUD en RDC. L'exposition, qui porte le nom de « Visage congolais, action et changement », ira jusqu'au 8 novembre à la Maison des jeunes de Goma. Prise en août et septembre 2012, ces photos témoignent des projets mis en œuvre par le PNUD pour améliorer la vie des Congolais. Après Goma, la prochaine exposition pourra avoir lieu à Bukavu fin novembre. Parlons ensuite déminage avec UNMAC, le programme des Nations Unies spécialisé dans le déminage qui procède en ce moment avec ses partenaires à Kibati, Kibumba et d'autres territoires du Nord Kivu à la destruction des restes explosifs de guerre et à la sensibilisation au risque des mines. UNMAC annonce d'ailleurs avoir déjà récolté et détruit 20 munitions à Kibati et à Walikale lors des opérations de nettoyage d'urgence opérées à Goma et dans les territoires avoisinants. Enfin, situation humanitaire. À moins de 2 mois et demi de la fin de l'année, OCHA indique que 61% des 892 millions de dollars américains attendus pour 2013 ont été mobilisés jusque-là. Annonce du directeur des opérations d'OCHA, John Ging, qui était en mission de 3 jours la semaine dernière à Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous restons dans le créneau humanitaire pour recevoir notre invité. Les agences humanitaires se mobilisent et mettent en place des stratégies d'assistance à plus de 30 000 déplacés congolais. Il y en a qui ont décidé de regagner leur zone d'origine après les succès des FARDC sur les mouvements rebelles. Quelles sont ces stratégies d'assistance? Je voulais suivre cette interview de Jean-Pierre Ilali Koko avec Imane Sherif. Elle est chargée des communications de Otcha au Nord Kivu.
Madame Imane Sherif, bonjour.
Bonjour.
Maintenant, on parle du succès militaire des FARDC sur le M23 au Nord Kivu, mais les combats qui ont précédé ont déversé dans la rue beaucoup de déplacés. Quel est, madame, le topo humanitaire de ces déplacés actuellement?
Alors, comme vous le dites, il y a eu des déplacements qui ont été enregistrés dans différentes zones du territoire du Nyiragongo et de Rutshuru, là où les combats ont eu lieu. À l'heure actuelle, la majorité des gens qui se sont déplacés sont en train de rentrer chez elles, étant donné que la situation s'est stabilisée. Nous avions enregistré environ 20 000 personnes qui s'étaient déplacées de Kibumba vers Kanyarutshinya. Ça se trouve à environ 7 km au nord de la ville de Goma. S'étaient installés dans des sites publics pendant 2-3 jours, mais qui ont fini par repartir chez eux depuis le lundi et le mardi de cette semaine. Nous avons eu aussi des rapports de gens qui se sont déplacés dans le territoire de Rutshuru sur différents axes, mais là, nous n'avons pas pu obtenir de données chiffrées parce que les gens étaient encore en mouvement. Cependant, les informations reçues du terrain font état que les gens sont en train de rentrer chez eux. Un autre déplacement qui a eu lieu, c'était les personnes qui ont fui vers les pays voisins. Les données que nous avons reçues, notamment du Haut Commissariat des réfugiés, faisaient état ce week-end d'environ 1100 personnes qui s'étaient déplacées vers le Rwanda, mais qui sont toutes rentrées chez elles. Cependant, il reste encore des gens qui sont réfugiés en Ouganda. Environ 10 000 personnes ont été rapportées depuis 2-3 jours dans la zone de la frontière avec le Congo et l'Ouganda, pas loin de Bunagana. Et donc là, on parle de 10 000 personnes à l'heure actuelle.
Madame, vous parlez des 20 000 déplacés et aussi des 1100 personnes qui s'étaient réfugiées au Rwanda et plus de 10 000 personnes donc, qui sont en Ouganda actuellement. Alors, quels sont les besoins humanitaires de ces déplacés?
Les principaux besoins qui se font sentir dans ce genre de situation sont principalement l'accès aux soins de santé, l'accès à l'eau potable et à des abris. Comme je vous l'ai dit, les gens qui étaient déplacés depuis Kimumba sont rentrés chez elles. Cependant, ça n'empêche qu'il se peut que certaines de ces familles aient eu peut-être leur maison détruite, donc il y aura probablement la nécessité de les assister pour reconstruire leurs habitations. Il y a aussi le besoin principal qui nous concerne et qui nous préoccupe, c'est la protection. S'assurer que ces gens-là vont rentrer dans des zones sécurisées, qui ne seront pas sujets à des exactions ou même à exposer aux problèmes, vous savez, des engins même explosés, vu que les combats ont été importants. Nous avons différents partenaires comme le UNMAC et des ONG partenaires qui sont déjà sur place en train d'identifier les endroits où des engins non explosés pourraient être un danger pour les personnes retournées. Pour ce qui est des autres personnes déplacées internes dans le Rutshuru, on attend que les mouvements se stabilisent parce que tant que les gens sont en déplacement, c'est un peu compliqué de pouvoir les assister. Mais là, avec les tendances au retour, ça nous permettra dans les jours à venir de pouvoir mener des évaluations et d'avoir une idée plus précise des besoins. Ça, ce sont pour les personnes qui se sont déplacées ces derniers jours, donc c'est des mouvements de courte durée, je dirais. Maintenant, il ne faut pas oublier que la province du Nord Kivu compte aussi de nombreux camps et sites de déplacés où des gens sont présents depuis peut-être plusieurs mois, voire même plusieurs années, dont des personnes du territoire de Rutshuru. Donc ce que nous sommes en train de voir, c'est dans quelle mesure ces personnes vont peut-être se sentir suffisamment à l'aise pour rentrer chez elles. Et à partir de là, nous allons voir comment les assister.
Est-ce que vous avez jusque-là prévu quelques stratégies d'intervention pour la prise en charge de ces déplacés?
Oui, bien sûr, comme d'habitude, nous sommes préparés à toute situation. Il y a les déplacements, mais il y a aussi le retour. Donc, ce que nous sommes en train de discuter au niveau de la communauté humanitaire ici au Nord Kivu, c'est de voir dans quelle mesure assister les retours des personnes déplacées. Donc là, ce sera des besoins, notamment probablement en vivres pour les gens qui n'ont plus la capacité de récolter leurs champs pendant de plusieurs mois, sachant que cette année, beaucoup de personnes n'ont pas pu préparer la saison agricole à cause des combats et de l'insécurité qu'il y avait dans différentes parties de la province. Aussi s'assurer que l'accessibilité à l'eau potable est bien entendu assurée, ce qui leur permettra de se réinstaller peu à peu dans leur zone d'origine. Au niveau de la santé, les partenaires qui sont opérationnels dans la zone ont toujours été opérationnels. Pendant les combats, bien sûr, les partenaires sont toujours présents, continuent à appuyer les structures de santé. Donc les gens qui retourneraient auraient accès sans difficulté aussi à des services de base pour la prise en charge médicale.
Quel apport attendez-vous de la MONUSCO ?
Vous savez très bien que la MONUSCO a un mandat particulier qui est celui de la protection des civils. Nous passons des messages régulièrement pour nous assurer que la protection des civils est respectée, que ce soit aussi au niveau des parties concernées par le conflit. Nous avons fait différents appels au respect du droit international humanitaire, au respect des infrastructures civiles, qu'elles ne soient pas prises comme cible pendant les combats. Avec la MONUSCO, nous faisons aussi, nous, en tout cas, OCHA, partie du système des Nations Unies. Donc nous avons des contacts pour nous assurer que les informations sont partagées en temps et en heure et pour que nous puissions évoluer et travailler dans les meilleures conditions possibles.
Madame Chérif, quelles sont les difficultés que vous redoutez pour l'instant sur le terrain, notamment à Rutshuru et un peu partout ailleurs?
Comme vous l'avez dit, d'autres territoires de la province connaissent des crises humanitaires assez importantes et assez critiques. Ce qui nous est difficile dans ce contexte-là, c'est notamment l'accès aux populations déplacées dans des zones soit très reculées et qui n'auraient pas d'infrastructure routière correcte, ou aussi pour des questions de sécurité. Donc ce sont les difficultés majeures auxquelles nous sommes concernés dans le travail quotidien des partenaires humanitaires. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de répondre à tous ces besoins-là.
Est-ce que vous avez lancé un appel d'aide aux bailleurs de fonds?
Nous avons lancé un appel en début d'année pour couvrir les besoins qui pourraient survenir au courant de l'année. C'était un appel de plus de 900 millions de dollars. C'était pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. À ce jour-ci, on a été financé à 61%. Maintenant, pour ce qui concerne le Nord Kivu en particulier, il n'y a pas d'appel qui a été lancé pour le moment. Nous avons la possibilité de répondre. Nous avons les ressources suffisantes pour répondre à l'heure actuelle. Cependant, si on estime que les ressources humaines et matérielles ne sont pas suffisantes, nous n'hésiterons pas à contacter les bailleurs.
Parlons maintenant de votre organisation OCHA. On sait que pendant cette période, OCHA a un rôle à jouer. Et comment OCHA entend-il coordonner les actions d'intervention si ces actions sont menées une fois?
Nous travaillons avec les différents partenaires humanitaires, que ce soit les autres agences des Nations Unies, que ce soit les ONG internationales et aussi les ONG nationales. Nous travaillons dans le cadre d'un système de coordination qu'on appelle le mécanisme des clusters. Donc ce sont des groupes sectoriels, par exemple la santé, l'éducation, l'eau, hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire, etc. Et dans ce cadre-là, nous nous assurons, nous, au CHA, d'identifier les besoins qui ne seraient pas couverts, d'en informer les partenaires, de mettre en lien des partenaires susceptibles de pouvoir répondre à des besoins non couverts, par exemple dans certaines zones. Nous avons différents mécanismes aussi avec les autorités provinciales pour s'assurer au niveau de la protection du civil.
Madame Chérif, nous vous remercions.
Merci à vous.
Nous sommes précisément à Dungu, en province orientale, pour la nouvelle en province. C'est là que nous apprenons qu'il y a un mouvement de retour spontané, mais timide, de 3000 réfugiés congolais basés au Soudan du Sud. Cependant, ces candidats au retour volontaire sollicitent l'implication du HCR et de la Commission nationale des réfugiés pour faire accélérer le processus. Sur place à Dungu, la correspondance est signée Jean-Michel Liboula Mompolo.
Selon l'administrateur des territoires de Faradje, ils sont 3000 les Congolais qui ont regagné la RDC en provenance de Niori, préfecture du Soudan du Sud. La même source précise qu'à leur arrivée, ces réfugiés se sont installés dans leur village d'origine, notamment à Kakwa et à Mandomisa, dans la chefferie de Yima. D'autres se retrouvent à Aru, Ariwara, Imbokolo et à Safisha, dans le district du Turi. La société civile indique que ces personnes n'ont bénéficié d'aucun appui pour leur réinsertion après plusieurs années passées en exil. Pour sa part, le HCR affirme être au courant de la situation. Cependant, il dit attendre la tenue de la tripartite avec les autorités soudanaises et congolaises afin de planifier les retours des Congolais candidats au rapatriement volontaire dans leur pays. C'est à cela qu'un appui de réinsertion sera octroyé. Dans notre État, près de 8000 autres Congolais réfugiés au Soudan du Sud attendent le retour dans leur pays natal. Dungu, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Kapi.
À Dungu, Radio Kapi est très suivi sur la fréquence 100.4 FM.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La victoire des FARDC sur les rebelles du M23 a fait couler beaucoup d'encre et de salive, à l'image de cette question de ce confrère lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa.
Je m'appelle Honoré Mbenga, je suis de l'agence presse associée APA. Monsieur le représentant spécial Martin Kobler, vous avez été personnellement à Kiwanja et à Rutshuru où vous avez salué le succès militaire des FARDC. Est-ce que quelques éléments du M23 auraient été capturés vifs? Si oui, quel sera leur sort? Merci.
Et c'est Martin Kobler, chef de la MONUSCO, qui s'est chargé de répondre.
Merci bien. On avait des défections, pas des prisonniers, des gens qui ont été capturés. Je ne connais pas maintenant les chiffres exacts, mais ce sont plusieurs dizaines de membres du M23 qui se sont défectés, qui ont cherché la protection de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Madnoj Mounoubaï. Madnoj, c'est mon prénom. Mounoubaï, c'est mon nom de famille. Pas de formation. Je suis administrateur civil. C'est une formation qui vient après une sortie de l'École nationale d'administration. Mais cette formation a été complétée par un diplôme en sciences politiques et un autre en administration et gestion des systèmes de transport. Je suis entré à la MONUSCO en février l'an 2000. Après avoir servi dans la mission de l'Angola et du Kosovo, je suis entré ici, je suis le premier chargé de l'information publique. J'ai travaillé à la publication, j'ai travaillé comme chef du bureau de l'information à Bounia et j'achève aujourd'hui ma fonction en tant que porte-parole de la mission et directeur adjoint de la division de l'information publique. En tant que porte-parole de la mission, j'avais la responsabilité d'interagir avec tous les médias de la place, d'interagir avec le bureau du porte-parole à New York, d'organiser les rendez-vous médiatiques pour le représentant spécial du secrétaire général. À la MONUSCO, je vous ai dit que j'ai travaillé à Kinshasa, dans différents bureaux pour de courtes périodes. J'étais à Bounia pour 2 ans et je suis revenu à Kinshasa. Mes temps libres, comment je les gère? Vous savez, quand on est à la MONUSCO, on travaille pendant de longues heures. On sait à quelle heure on entre au bureau, mais on ne sait jamais à quelle heure on part. Mais en général, mon temps libre, je le passe d'abord pour faire la marche. J'essaie de faire la marche au moins 4 fois dans la semaine, même si c'est tard le soir, 20h, 21h. Je fais toujours un peu de marche. C'est nécessaire pour la santé. J'aime écouter la musique, surtout la musique congolaise. Je quitte la mission maintenant. Dans l'immédiat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reposer. Je vais au moins me donner 3 mois de repos. Mais les perspectives ne manquent pas. Je ne pense pas que je vais rester inactif puisque j'ai encore la force, la santé et les capacités intellectuelles. Je vais toujours contribuer à faire quelque chose pour le monde.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Et avant de boucler notre magazine, notez quelques rendez-vous de la semaine. C'est précisément 3 dates et 3 journées à retenir pour la semaine qui commence. D'abord, le 6 novembre, ce sera la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. Le 7 novembre, ce sera la journée internationale de l'écrivain africain. Et enfin, le 10 novembre, la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cet agenda marque la fin du magazine des Nations Unies. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net, rubrique MAGUN. Pour vos remarques, suggestions et commentaires, envoyez-nous un email à magun@radiocapi.net. Nicole Ngaka a supervisé cette émission. Honoré Missenga et Jean-Pierre Lali m'ont aidé à vous la présenter. Et Jean-Noël Mokondo était à la prise de son. Le prochain rendez-vous, c'est évidemment le dimanche prochain à partir de 10h03, heure de Kinshasa. Berry Franklin Luchaka vous dit merci de nous avoir suivis et surtout, excellente condition d'écoute en compagnie de Tina Salama.